Eh bien, très bon réveil à tous. Et on débute avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Derrière les chiffres, des destins en jeu. 6 milliards d'euros, c'est ce que représentent en temps normal les promotions du Black Friday en France. Le ministre de l'économie veut décaler cette opération, mais les acteurs privés, les géants du commerce en ligne comme Amazon, ont les mains libres. C'est ce que regrettent les petits commerçants.
Pendant ce temps, les libraires ne digèrent pas des amendes à 135 euros reçues pour non-respect des règles sanitaires avec le click and collect.
Autre chiffre à la une ce matin, 2 contre 25. La Pologne et la Hongrie contre le reste de l'Union européenne. Varsovie et Budapest bloquent depuis le début de la semaine le budget européen et les aides conditionnées au respect de l'état de droit. La relance des 27 face à la crise est dans la balance et c'est au menu du Conseil européen aujourd'hui. Près d'un salarié sur deux est en détresse psychologique avec la crise. L'occasion peut-être d'opérer des changements dans les entreprises, vous l'entendrez.
Et puis justement, Catherine, dans une dizaine de minutes, on évoquera les conséquences de la crise sanitaire sur notre santé mentale. J'en parlerai avec Marion Le Boyer, elle est responsable du service de psychiatrie et d'addictologie du groupe hospitalier universitaire Henri Mondor à Créteil.
Est-ce que vraiment vendredi prochain, c'est la bonne date pour organiser un Black Friday? Ma réponse est non. C'est ce qu'a déclaré hier Bruno Le Maire devant le Sénat. Le ministre de l'économie appelle les acteurs de la grande distribution et du commerce en ligne au sens des responsabilités pour tenter de décaler cette opération promotionnelle prévue donc le 27 novembre. Mais cet appel, qui n'a pas de caractère contraignant, a été fraîchement accueilli, y compris par les petits commerçants Anne-Laure Jumet.
Le gouvernement n'a pas la main sur les dates du Black Friday et il le disait encore tout récemment quand on l'interrogeait sur la question. Il s'agit d'une opération commerciale privée, nous expliquait-on à Bercy. Dans la foulée des propos de Bruno Le Maire, la Fédération de la vente à distance rappelait que cette opération était importante pour les e-commerçants et qu'elle devait consulter ses adhérents tout en ne fermant pas la porte à un tel report. Mardi sur France Culture, le patron d'Amazon France expliquait quant à lui que le Black Friday était attendu par les consommateurs dans la perspective de Noël et que ce n'était pas le moment d'y renoncer, mais il laissait encore planer le doute sur ses intentions. Il n'y a pas d'ailleurs que le e-commerce qui bénéficie de cette opération commerciale. À Bercy, on rappelle ainsi que sur les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés, 5 milliards vont au commerce physique. En tout cas, l'intervention de Bruno Le Maire sème le trouble chez les organisations professionnelles. Plusieurs fédérations de commerçants estiment ainsi que ce report n'est pas une fin en soi et ne doit pas servir d'alibi à un prolongement de la fermeture des commerces. Mais à Bercy, on l'assure, cette demande ne préjuge en rien de la décision qui sera prise dans le courant de la semaine prochaine.
En attendant qu'Emmanuel Macron ne prenne la parole la semaine prochaine, donc, le président de la Confédération des commerçants de France plaide pour une réouverture des magasins au plus tard le 27 novembre, date du Black Friday. Sans cela, il prédit des faillites en cascade, car poursuit-il, on en est à un stade d'épuisement économique et moral. De la colère aussi chez les libraires, on en a beaucoup parlé, ils sont considérés comme des commerces non essentiels et restent donc fermés. Seule la commande en ligne, puis le retrait en magasin sont autorisés. Enfin, attention tout de même aux verbalisations. En Seine-Saint-Denis, plusieurs professionnels ont reçu une amende de 135 euros pour non-respect des règles sanitaires, comme Rosalie Abirached, libraire à Bagnolet.
On nous reproche d'avoir une table trop éloignée de la porte, alors qu'elle est juste sur le collé au paillasson et qu'elle barre totalement l'accès au rayon. Il nous reproche de créer des attroupements sur le trottoir, il y a 4 personnes. Il nous reproche d'avoir fait rentrer 3 personnes, enfin rentrer sur le seuil de la librairie 3 personnes en même temps, en l'occurrence une maman et ses 2 petits-enfants. Effectivement, on n'a pas laissé dehors, il faisait plutôt froid, il faisait nuit, on n'a pas laissé dehors les 2 enfants, mais personne n'est rentré dans la librairie. Personne ne s'est baladé, personne n'a touché au livre. Voilà ce qu'il nous reproche. C'est pas normal, en fait, c'est juste un abus de pouvoir ordinaire, mais ça a été une autre librairie la semaine passée, ça pourrait être un autre commerce. On est tous quand même assez fragilisés par la situation, on fait tout notre possible et on est soucieux et soucieuses de la situation sanitaire et je considère que nous mettre des bâtons dans les roues comme ça, c'est pas admissible en fait, ça mérite d'être dénoncé.
Rosalie Abirached, libraire à Bagnolet, elle répondait à Gérard Mohamed de France Bleu Paris. Avec un protocole sanitaire renforcé, les librairies mais aussi le secteur de l'habillement, les salons de coiffure et les fleuristes pourraient rouvrir progressivement. C'est ce que demande dans une lettre François Baroin, le président président de l'Association des maires de France. Peut-on sortir d'une politique culturelle de crise? C'est la question que posera ce soir Emmanuel Laurentin à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, invitée du temps du débat à partir de 18h20 sur France Culture. La crise qui pousse à demander des changements au sein des entreprises, alors que près d'un salarié sur deux est en détresse psychologique, selon une enquête publiée hier par le cabinet Empreinte Humaine, spécialisé dans les risques psychosociaux. Son président, Christophe Nguyen, également psychologue au travail.
Il y a des nouvelles attentes effectivement qui s'expriment en termes de ce que demandent les salariés vis-à-vis de leur environnement de travail, de leur management, des relations qu'ils ont avec leurs collègues, et qui créent potentiellement aussi un certain détachement vis-à-vis de l'entreprise et d'engagement. Donc c'est durable, selon nous, on voit que nécessairement il y aura une résilience des salariés pour pas sombrer, si vous voulez, dans la pathologie mentale, et que beaucoup vont demander d'autres choses, beaucoup vont réorganiser aussi leurs priorités de vie. Par exemple, une plus grande attente en matière d'équilibre des vies, et de pouvoir avoir une plus grande flexibilité, avoir un management basé beaucoup plus sur la confiance, la notion de bienveillance qui peut pas être juste une injonction, mais je pense que les personnes ne veulent plus travailler dans des environnements où leur santé psychologique peut être menacée. Donc ça va s'exprimer par du turnover beaucoup plus fort, ça va s'exprimer par des conflits, parce que une tension pourrait s'exprimer plus forte entre ces nouvelles attentes et finalement des vieilles pratiques ou des vieilles habitudes que les gens n'accepteront plus.
Le psychologue du travail Christophe Nguyen à la tête du cabinet Empreinte Humaine. Télétravail, confinement, stress, la santé mentale des salariés se dégrade. C'est aussi un article à retrouver sur franceculture.fr. Pénalisé par la pandémie et endetté, l'industriel Vallourec supprime plus d'un millier de postes, dont 350 en France. L'usine de Seine-Maritime sera fermée. Le spécialiste français des tubes sans soudure dépend aussi du marché des hydrocarbures qui s'est fortement contracté depuis le début de la crise sanitaire. Vallourec avait déjà annoncé au premier semestre la suppression de 900 postes en Amérique du Nord sur près de 19 000 salariés dans le monde.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Le Conseil européen aujourd'hui devrait être consacré à la réponse européenne face à la pandémie. Il se penchera également sur le budget pour les 7 prochaines années.
Plus de 1 000 milliards d'euros en jeu. Cela comprend le plan de relance des 27 face au Covid. Mais ces budgets sont bloqués depuis le début de la semaine par deux pays. La Hongrie et la Pologne refusent que l'accès aux fonds européens soit désormais lié au respect de l'état de droit. Il faut dire qu'en 10 ans de pouvoir, le premier ministre hongrois Viktor Orban a mis la quasi-totalité des médias sous sa coupe et limité l'indépendance de la justice, tandis que son clan a capturé l'essentiel des fonds européens. Viktor Orban, en position de force aujourd'hui face à Bruxelles, pourrait voir son obstination se retourner contre lui. À Budapest, les explications de Florence Labruyère.
Pour adopter le budget et le plan de relance, les États membres doivent voter à l'unanimité. Ils ont absolument besoin de la Pologne et de la Hongrie. Viktor Orban exerce donc un chantage sur les Européens. Pas question pour lui que le versement de l'argent communautaire soit conditionné au respect de l'état de droit. Pour Orban, c'est de l'idéologie, comme il le déclarait récemment à la radio hongroise.
Cette nouvelle norme qu'ils appellent avec snobisme état de droit, c'est de la politique. Si cette norme est adoptée, ils auront transformé l'Union européenne en une nouvelle Union soviétique. C'était comme ça dans l'Union soviétique. On imposait des choses sans critères objectifs. Aujourd'hui, c'est pareil. Ils veulent imposer leur idéologie. C'est du chantage.
En échange de son vote, Viktor Orban essaiera peut-être d'obtenir un affaiblissement du nouveau mécanisme. Il pourrait aussi demander l'abandon de la procédure engagée contre la Hongrie par Bruxelles il y a 2 ans. En tout cas, les négociations s'annoncent difficiles. À Budapest, tous les partis d'opposition demandent aux gouvernements européens de trouver une solution rapide à la crise et de mettre fin à ce qu'ils appellent l'égoïsme de Viktor Orban, qui risque de priver les Hongrois de l'argent européen.
Autre tension source de discussion en Europe, dans la course au vaccin contre le Covid. La Commission a précommandé 1800 millions de doses auprès de 5 laboratoires et négocié avec le 6e, Moderna. Mais l'opacité dans laquelle ces contrats sont négociés inquiète certains parlementaires européens. Ils demandent depuis plusieurs semaines à la Commission européenne de les rendre publics, en vain. Le reportage à Bruxelles d'Angélique Bouin.
Ce sont les eurodéputés qui mettent la pression. Le président de la commission santé, Pascal Canfin, estime que sans transparence, les citoyens que la vaccination inquiète ne se laisseront pas convaincre.
Comment peut-on imaginer continuer à avancer sur ce vaccin sans savoir qui est responsable de quoi en cas d'effet secondaire, d'effet induit?
En cas de défaut d'un vaccin, ce sont les labos qui indemniseront les malades, martèle la commission. Elle indique avoir suivi scrupuleusement les règles européennes en la matière, mais sans s'apesantir sur les clauses d'exception. Or, il y en a, selon plusieurs sources, en cas de défaut que le labo ne pouvait pas connaître, ce sera bien aux États de payer des indemnisations. Sans certaines garanties, nous n'aurions pas investi, a d'ailleurs reconnu lors d'une audition parlementaire Jean Stéphane, l'un des responsables du laboratoire CureVac.
On prend dans ce dossier un risque maximum. Les industries doivent être protégées si vous voulez que l'on continue à développer des technologies.
L'opacité sur les sommes versées aux labos pour lancer la production de vaccins avant même leur validation médicale est également dénoncée. C'est de l'argent public pioché dans le fonds d'urgence européen doté de 2 milliards d'euros. Combien a-t-on donné et à qui? Quelle sera la facture finale? Ce n'est pas dans notre intérêt de dévoiler à certains labos ce que l'on a négocié avec d'autres, répond la Commission.
Le bassin méditerranéen est particulièrement vulnérable au réchauffement climatique. Il se réchauffe 20% plus vite que la moyenne mondiale. Aujourd'hui, 15% des décès dans le bassin méditerranéen seraient déjà attribuables à des causes environnementales que l'on peut éviter, selon le Plan Bleu, un organisme qui travaille au sein du programme de l'ONU pour l'environnement. En France, le Conseil d'État va-t-il contraindre le gouvernement à réduire davantage ses émissions de CO2? La plus haute juridiction administrative examine pour la première fois aujourd'hui un contentieux climatique. À l'origine, un recours déposé en janvier 2019 par la commune de Grande-Synthe et son ancien maire, Damien Carême, aujourd'hui député Europe Écologie Les Verts en Europe. Cette commune du Nord est exposée à des risques de submersion à cause du réchauffement climatique et le recours vise donc l'État français pour inaction climatique. L'État qui pourrait se voir donc contraint par le Conseil d'État de réévaluer sa politique climatique et de respecter ses engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Plus de 60 000 signatures en ligne pour dénoncer un projet au bout du monde de la maison Hermès. La marque française de luxe vient d'acquérir une ancienne propriété horticole près de Darwin en Australie. 50 000 crocodiles vont être élevés pendant 5 ans dans cette ferme gigantesque, élevée pour être tuée. Leur peau servira à fabriquer des sacs à main et d'autres accessoires de maroquinerie. Et c'est un lycéen de Marseille qui a joué en quelque sorte les lanceurs d'alerte en apprenant les intentions d'Hermès, Cécilia Arbona.
C'est dans sa chambre, en surfant sur les réseaux sociaux, que l'adolescent a découvert le projet.
Je m'appelle Baptiste Dogliani, je suis en terminale ES et j'ai vu que Hermès avait pour projet de construire la plus grande ferme de crocodiles en Australie. On va pas se mentir, hein. Je pense pas que des sacs à main en peau de crocodile ou des ceintures, ça soit vital. Les pétitions pour la jeunesse, c'est un très bon porte-voix. Je pense que c'est bien puisque les gens, ils sont chez eux, ils peuvent signer. C'est pas très contraignant, on va dire.
La pétition de Baptiste a été signée par Loïc Dombreval, député La République En Marche des Alpes-Maritimes, président du groupe d'études Conditions Animales à l'Assemblée Nationale.
J'ai un courrier qui est prêt à l'attention du président d'Hermès. Qui d'ailleurs s'exprime également sur son site internet en expliquant à quel point il est attaché à la biodiversité et au respect des animaux, ce qui est quand même un comble.
Le monde de la maroquinerie doit évoluer, estime la jeune créatrice Camille Levet, fondatrice de la marque Cray.
Nous, on se place un petit peu comme une marque en mouvement et on est tout le temps en train de chercher des solutions.
On n'a jamais utilisé de plastique dans nos produits. Le cuir, c'est une matière naturelle. C'est la première matière qui a été aussi recyclée d'une certaine manière puisque toute la viande est consommée et donc c'était un déchet de l'industrie alimentaire qui est revalorisé.
Avec son compagnon Sébastien, elle signe une gamme de sacs à main en papier pour l'été prochain.
Le temps de ce jeudi 19 novembre assez variable, les températures comprises au meilleur de la journée entre 10 et 15 degrés d'est en ouest jusqu'à 23 près de la Méditerranée.
Merci Catherine Dutu. Dans quelques instants, on va évoquer l'incidence de la crise sanitaire.